Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes et bienvenue à Torah Box Radio depuis Jérusalem. Et aujourd'hui, je vous invite donc à notre émission Judaïsme au féminin et je suis très très heureuse d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, donc rabbanite Léa Benaïm, et j'essaie chaque semaine avec vous d'analyser un aspect de notre judaïsme afin de nous enrichir, de nous permettre de vivre plus pleinement notre lien avec Hachem, avec les mitzvot et avec la Torah Bichlal. Et en vérité, ce que je cherche et ce que je veux, c'est que grâce à la Torah et aux mitzvot, on s'épanouisse. Voilà, c'est ça en fait le but de la Torah. C'est qu'Hachem, il veut qu'on soit heureux dans ce monde en le servant à travers notre lien avec lui. Et j'aime bien analyser des sujets liés au calendrier juif parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui vit avec son temps. Et donc, chaque semaine, on aborde un nouveau sujet et cette semaine, c'est une grande semaine parce que cette semaine, nous allons fêter. Oui, j'emploie le mot fêter parce que Rosh Chodesh Elul, pour moi, c'est une fête. Parce que le mois d'Elul, c'est un mois très très particulier, c'est un mois très riche, c'est un mois magique, c'est un mois cadeau. Et donc aujourd'hui, j'aimerais dans notre émission un petit peu qu'on commence à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce mois. C'est pas que le mois d'Elul qui commence, mais il faut aussi savoir que depuis Tisha B'Av et jusqu'à Rosh Hashanah, on traverse une période qui s'appelle les 7 semaines de consolation. Puisque depuis la destruction, donc depuis le 9 Av, où nous sommes endeuillés sur la destruction du Beth Amikdash, et jusqu'à Rosh Hashanah, les Haftarot sont des Haftarot. Donc les Haftarot, c'est ce qu'on lit après la Parasha, la synagogue, le Shabbat. Ce sont des Haftarot de consolation. Et donc toutes ces semaines, ces 7 semaines, en vérité, ce sont une longue période de consolation qu'Hachem nous traversons avec Hachem pour en vérité nous préparer à Rosh Hashanah, nous préparer à la fête de aux fêtes de Tishrei, pour nous préparer à Yom Kippour, à Sukkot, etc. Donc aujourd'hui, on va un petit peu découvrir qu'est-ce que le mois d'Elul en analysant le psaume 27. Pourquoi le psaume 27? Eh bien, on fait une petite pause. Et après, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai choisi d'Avka ce psaume pour parler du mois d'Elul. Je vous propose donc de ne pas nous quitter. Juste, je vous rappelle que si vous avez quelque chose à nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante, radio@torah-box.com. Donc, à tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce des vraies Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mitzvotah, de garder le mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box délivrent sur mesure pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes pour notre émission Judaïsme au féminin. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Et on continue, en vérité, on va commencer, Bémet, à expliquer quel est le thème d'aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc je vous ai dit avant la pause que je voulais aujourd'hui aborder, commencer à parler, à analyser le mois d'Eloul en utilisant le psaume 27. Quelques explications autour de ce psaume. Et en vérité, pourquoi est-ce que d'afkoua ce psaume ? Et je ne vous dirai pas encore pourquoi. D'abord, je veux d'abord dire quelques mots sur les Tehillim. Lorsque j'ai commencé à étudier ce psaume et à essayer de choisir de quoi est-ce que j'allais vous parler, je me suis dit, c'est dommage. Les femmes, elles lisent Tehillim. En général, la femme juive en particulier, elle a un lien avec les Tehillim. Il y a des femmes qui vont lire tous les jours des Tehillim. Il y a des femmes qui lisent lorsqu'on leur demande, lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, lorsqu'il y a quelqu'un qui doit accoucher. Il y a des femmes qui lisent le Shabbat des Tehillim. Mais en général, la femme, le juif, Bichlal, et la femme en particulier, a un lien spécial avec le livre de Tehillim. Mais malheureusement, il y a un Yetzer Hara, il y a un danger. Le danger, c'est que on a tellement l'habitude de lire le Tehillim. De nouveau, il y en a qui vont vous lire un psaume par semaine, et il y en a qui vont vous lire 100 psaumes par jour, chacune à son niveau. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on oublie la grandeur et l'importance des Tehillim. On oublie combien est-ce qu'on peut ouvrir de portes grâce au livre des Tehillim. Et donc, avant d'expliquer, de parler, de vous faire le lien entre le psaume 27 et le mois de Eloul, je voulais d'abord nous rappeler combien est-ce que David a mis de puissance dans les mots du Sefer Tehillim, du livre des Tehillim. Et vous savez pourquoi tout ça ? Vous savez, dans le Messilat Yesharim, le Ramchal, dans le livre Messilat Yesharim, le Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il nous dit que ce qu'il raconte, c'est des choses connues, mais qu'il faut se rappeler. Et là, je vais vous dire la même chose. Il y a certaines choses qui sont parfois connues, mais qu'il faut se rappeler pour réaliser et prendre conscience de combien est-ce que c'est grand. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose que j'ai entendu d'une rabbinite chez qui j'ai étudié il y a longtemps. Ça s'appelait la rabbinite Riva Lapidot. C'est important pour moi de la mentionner, Zichrona Livracha, parce qu'elle n'est plus de ce monde. Et elle nous avait dit que David, il avait un rêve. David Ameler avait un rêve. Son rêve était d'écrire un livre dans lequel tout juif pourrait trouver dans sa vie du réconfort, pourrait trouver des réponses, pourrait trouver des solutions et pourrait se retrouver dans ce livre. Et donc David Ameler est venu demander à Dieu la possibilité, donc le roi HaKodesh, l'Esprit divin, pour pouvoir écrire un livre pareil. Et Dieu lui aurait répondu, David, si tu veux écrire un livre où tout juif pourra se retrouver dans toutes les circonstances de sa vie, il faut que toi-même, David, tu traverses toutes les épreuves et toutes les difficultés. Parce que si tu n'as pas traversé une difficulté, tu ne peux pas écrire quelque chose que les gens vont ressentir, qu'on leur parle, que ça les concerne. Et David, rien que je vous dis ça, j'ai des frissons. Vous savez, les tzadikim, ils ont un amour pour le peuple juif incandescent. Et David, il voulait tellement nous donner ce cadeau du livre de Tehillim qu'il a été prêt à endurer tout ce qu'il a enduré. Et David, il a enduré tous les malheurs possibles. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas vous raconter tous les malheurs de la vie de David. Mais David, il a traversé toutes les difficultés qu'un homme peut rencontrer. Et de ces difficultés, en fait, c'était un choix. Pourquoi ? Pour pouvoir nous offrir le livre de Tehillim. On a beaucoup d'histoires aussi du Baal Shem Tov qui expliquent combien est-ce qu'un juif tout simple, qui lit Tehillim uniquement, qui n'a pas un haut niveau spirituel, mais ne serait-ce que par le fait qu'il lit Tehillim, il est capable d'atteindre la Géoula. Rabbi Nachman de Breslev nous dit également que lorsque Mashiach viendra, ceux qui lisent Tehillim dans la simplicité seront ceux qui poseront la couronne sur la tête du Mashiach. Pour vous dire combien est-ce que ces gens-là sont chers aux yeux d'Hachem. Vous savez, même les goyim, ils connaissent la puissance du livre de Tehillim, vous savez. Mon mari, il était à l'hôpital l'année dernière parce que, voilà, il devait prier pour son père là-bas. Et donc, il priait. Il avait son livre de Tehillim dans les mains tout le temps. Et puis, une infirmière, donc non-juive, est venue le voir et lui a dit, « Monsieur, Je vois que vous tenez dans vos mains un livre de psaumes. Mais est-ce que vous avez lu le psaume 23? Est-ce que vous l'avez lu? Mon mari la regarde et il a été impressionné, épaté de se dire une non-juive, elle connaît la valeur de Tehillim et elle sait même que le psaume 23, il parle de... Voilà, c'est le psaume aussi qui parle de la confiance en Dieu, etc. Et oui, parce que même les non-juifs, ils connaissent, ils savent la grandeur du livre des Tehillim. Le Midrash, il nous dit que... Le Midrash Shochertov, il nous dit que David, dans son livre, il a écrit en vérité pour que ça touche tous les juifs à tout moment. Le Malbim, il nous dit autre chose. Le Malbim, c'est aussi un commentateur de la Torah qui nous dit qu'il faut savoir que dans ce livre de Tehillim, il y a des ségoulottes très très chères. Il dit que le livre de Tehillim, c'est un médicament. Ce sont des clés qui ouvrent les portes du ciel. Toutes les portes, les Tehillim peuvent ouvrir. Vous savez, très souvent, on cherche des ségoulottes. C'est très très à la mode, les ségoulottes. Et c'est vrai que ça aussi, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en reparlera, si vous voulez, du nian des ségoulottes, de c'est quoi une ségoula. Vous savez, on nous dit, si tu fais ça, alors tu mériteras ça. Si tu fais ça, il y a toutes sortes de ségoulottes. C'est vrai que ça existe dans notre judaïsme. Ça a une place. Et souvent, on cherche à qu'est-ce que je pourrais faire comme ségoula pour me marier, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir la parnassa. Et il y a des fois des ségoulottes qui sont simples et qui sont écrites tout simplement, comme par exemple lire Tehillim. Le Malbim, il nous dit, lire Tehillim, c'est une ségoula. Pourquoi aller chercher parfois très très loin? Le Sefer Hamidot, il nous dit que lorsqu'une personne a un cœur brisé, un lev nishbar, alors le Tehillim sera pour lui comme un pansement sur son cœur. En fait, les mots de Tehillim, ce sont des mots magiques au pouvoir guérisseur. Et David, il comprenait toutes les néchamot. David, il comprenait toutes les âmes. Et donc, il avait la possibilité d'écrire des mots qui allaient toucher tout le monde. David, dans son livre de Tehillim, il aborde tous les sujets et en vérité, il parle de tous les problèmes. Même si nous, on ne voit pas exactement notre problème parfois dans les mots de David, mais il faut savoir que lorsque David a écrit donc ses textes, il avait comme intention de donner des réponses pour les gens qui sont malades, des gens qui cherchent leur parnassa, qui ont besoin de bracha dans la parnassa. Pour annuler le Tehillim, il a également la force d'annuler des mauvais décrets, d'adoucir les rigueurs, etc., etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup à dire sur Tehillim, mais en fait, ce que je voulais juste en introduction, c'est vous rappeler, pour vous qui lisez Tehillim, et pour celles qui ne lisent pas Tehillim, parce qu'elles n'y pensent pas, elles n'ont pas le temps, que c'est vraiment un cadeau qu'Hachem nous a donné, ce livre. Et c'est quelque chose à apprécier, c'est quelque chose à exploiter. Et si vous lisez déjà Tehillim et que vous n'avez pas conscience de ça, alors prenez-en conscience. C'est dommage de rater quelque chose d'aussi grand que de savoir que lorsque je lis Tehillim, je suis en train d'apporter de la bracha au monde entier, je suis en train d'ater la Géoula, je suis en train d'adoucir les rigueurs sur le peuple d'Israël, sur ma famille, sur les gens qui m'entourent, etc. Et que vraiment, vraiment, comme on dit en hébreu, zépoel, ça, c'est actif. C'est ça, un impact. Maintenant, je vais reprendre donc ce que j'avais commencé à vous dire. Aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de parler avec vous du Mizmor 27. Pourquoi le Mizmor 27? Parce que y a une coutume, comme on dit en hébreu, un minag, qui est de lire le Mizmor, le Tehillim 27, Kavzaïn en hébreu, depuis Rosh Chodesh Elul et jusqu'à la fin de Sukkot, jusqu'au dernier jour de Shmini Atzeret. En vérité, cette coutume, on l'a trouvée pour la première fois dans un livre, dans un sidour du XVIIIe siècle, d'un des élèves du Baal Shem Tov. Et là-bas, dans ce sidour, il y avait écrit qu'il y avait donc cette coutume de lire ce livre, de lire ce chapitre de Tehillim pendant cette période. Ensuite, on l'a trouvé également dans d'autres sidourim par la suite. En tout cas, c'est au XVIIIe siècle qu'on a commencé à découvrir cette coutume. Et en vérité, dans le livre donc, du Rav de Rajkov, qui est donc un élève du Baal Shem Tov, il explique aussi différentes raisons. Pourquoi est-ce que Dafka, c'est ce psaume qui a été choisi pour être lu pendant cette période? Parce que, avant que je vous donne quelques raisons, il faut savoir que on sait bien que la période de Elul, c'est le mois de la tchouva, c'est le mois du repentir. On en reparlera, on se repentit en vérité pour se préparer au jour du jugement, à Rosh Hashanah, au Yom Hadin, pour se préparer donc à Yom Kippour, le jour du grand pardon qui nécessite une préparation, etc. Il y a un psaume, qui est le psaume 51, qui est appelé le psaume de la Tchouva. C'est le psaume dans lequel David décrit son regret d'avoir fauté avec Bathsheba. De nouveau, le thème de David et Bathsheba, ce n'est pas le sujet du cours, donc on en reparlera à l'occasion si vous voulez, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, est-ce que David a fauté, n'a pas fauté? Les sages nous disent que David n'a pas fauté. Malgré tout, David a écrit un livre de Tehillim, pardon, un chapitre, décrivant combien est-ce qu'il regrette, parce que pour lui, il a senti donc qu'il avait fauté, combien est-ce qu'il regrette. Et en vérité, ce psaume 51 serait plus adapté à lire en Elul, puisque si on parle de Tchouva, alors utiliser le psaume de la Tchouva. Mais non, le psaume qui a été choisi, c'est le psaume 27, Kavzaïn. Et donc, on nous donne plusieurs explications. En vérité, les sages, ils utilisent surtout des allusions. Des allusions, pourquoi est-ce que c'est justement ce psaume qui doit être lu? Je vais vous ramener quelques allusions, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'essence même de ce psaume et pourquoi est-ce que, justement, ce psaume, c'est lui qui va nous préparer à la tchouva. C'est lui qui va nous lancer sur le chemin de la tchouva, et c'est lui qui va être la base d'un véritable repentir. Alors, les allusions qui sont données, on nous dit par exemple que dans le premier verset, il y a écrit que David y dit, et David Hachem ori veishi, que David dit, Dieu est ma lumière et mon salut. Et les sages nous disent que la lumière, c'est une allusion à Rosh Hashanah, et ishi, mon salut, c'est une allusion à Yom Kippour. Les sages nous disent également que dans ce psaume, il y a 13 fois le nom de Dieu. 13, c'est un chiffre qui est connu dans le judaïsme, pardon. Le 13, c'est un chiffre qui est connu dans le judaïsme et qui fait allusion aux 13 attributs de bonté. 13 attributs de bonté qu'on sait que Dieu, dans tout le mois de Elul, déverse sur le monde ces 13 attributs de bonté. On en reparlera. Le mois d'Elul, c'est un mois qui est propice à la tchouva. Dans la Chassidoute, on nous dit que le mois d'Elul, c'est un mois où le roi, donc Dieu, est dans les champs. Il est avec nous, il est présent. Et donc, où également, ces 13 attributs de bonté sont perceptibles et sont à notre portée, Bezrat Hashem, pour pouvoir nous aider à faire tchouva. Et donc, une des allusions, c'est que dans ce psaume, il y a 13 fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, et allusion aux 13 attributs de bonté du mois d'Elul. Et il ne faut pas oublier également que dans le mois d'Elul, on a l'habitude, enfin les hommes bien sûr, de faire des slichot. Les sfaradim donc, se lèvent aux aurores depuis le lendemain de Rosh Chodesh et jusqu'à Yom Kippour. Les ashkenazim commencent plus tard, mais les slichot, en vérité, c'est un moment dans lequel on mentionne ces 13 attributs de bonté. Et donc, et ça, je nous dis également, le Baal HaFlaï, il dit que ce psaume, c'est une forme de mini-slichot. Voilà, c'est un petit peu comme un résumé des slichot, un condensé des slichot, puisqu'il allusionne 13 fois le nom de Dieu, 13 fois les 13 attributs de bonté, etc. Donc, il y a encore d'autres allusions, mais ce n'est pas vraiment le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, les allusions. C'est plus essayer de comprendre qu'est-ce que ce psaume vient nous dévoiler, qu'est-ce que ce psaume vient nous... qu'est-ce qui vient nous apprendre, en fait? Qu'est-ce qui vient nous apprendre dans notre approche à ce mois tellement, tellement particulier? Alors, pour pouvoir l'analyser, il faut d'abord le lire. Il faut d'abord comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, je vais vous le lire dans un premier temps. Ensuite, on fera une petite pause. Et on reprendra un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière les mots tellement, tellement forts de David Ameller. Donc, je vous le lis. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart qui protège ma vie. Qui redouterais-je? Quand des malfaiteurs s'approchent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis qui me guettent, ce sont eux qui bronchent et tombent. Qu'une armée prenne position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Que la guerre fasse rage contre moi, même alors, je garde ma confiance. Il est une chose que je demande au Seigneur, que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la splendeur de l'Éternel et de fréquenter son sanctuaire. Car au jour du malheur, il m'abriterait. Car au jour du malheur, il m'abriterait dans son pavillon. Il me cacherait dans la retraite de sa tente. Il me ferait monter sur un rocher. Dès à présent, je porte le front haut en face des ennemis qui m'entourent. Je vais immoler dans sa demeure des sacrifices de triomphe. Je vais chanter, célébrer le Seigneur. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois-moi propice et exauce-moi. En ton nom, mon cœur dit, recherchez ma face. C'est ta face que je recherche, ô Seigneur. Ne me cache point ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon soutien, ne me délaisse pas, ni ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car père et mère m'ont laissé là, mais l'Éternel me recueillera. Guide-moi, Éternel, dans tes voies, dirige-moi dans le droit chemin, à cause de ceux qui me regardent de travers. Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires, car ils se dressent contre moi, les témoins mensongers, ceux qui souffrent la violence. Ah, si je n'avais la certitude de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, courage, que ton cœur soit ferme. Oui, espère en l'Éternel. Alors voilà, c'est le fameux psaume que nous lisons pendant toute cette période et que nous allons analyser ensemble. Mais je vous fais donc une petite pause. On se retrouve juste après la pause. Si vous avez quelque chose à nous écrire, avec plaisir, à l'adresse suivante, radio@torah-box.com. À tout de suite.
שפתחת לי דלת, שערי רחמים, נשיקת מלאכים. לא נשבר, לא נגמר. אתה שציירת חיוך על שפתי ילדים, על תפילות אנשים. באורך יש חיים. שך בתוכי אלוהי תשמע קולי על המר והמתוק מודה אני אתה שגשמת בחלק חלומות רחוקים שהפכו לחיים נס גדול ים נגן בי תמיד אור אינסוף שמזכיר שאנחנו רק שיר
à toutes pour notre émission Judaïsme au féminin. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenues. Et donc, on continue où on s'est arrêté avant la pause. Donc, juste avant la pause, je vous ai lu donc ce Tehilim Kafzaïn, dans lequel que nous lisons depuis Rosh Chodesh Elul et jusqu'à Shmini Atzeret, donc dernier jour de Sukkot. Les avis sont partagés quant à quand est-ce que David a écrit les Tehilim par rapport aux événements de sa vie, mais en tout cas, beaucoup d'avis disent sur ce pérec, sur ce chapitre, que David l'a dit en sortant en guerre pour se renforcer et renforcer ses troupes en confiance en Dieu. Vous savez que David, il a fait beaucoup de guerres. Et que c'est vrai que dans ce chapitre, on parle beaucoup donc de... On parle des ennemis, on parle de la sortie en guerre. Et David parle beaucoup du fait que grâce à la confiance qu'il met en Hachem, il n'a pas peur. Il faut savoir que lorsque David parle, il parle bien sûr des guerres physiques qu'il avait à faire pour le peuple d'Israël, contre les Pélishtim, etc., contre les Philistins et les autres. Mais à chaque fois, on sait bien que lorsqu'on parle de guerre, on parle également de la guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Et donc, on voit dans ce Tehillim plusieurs thèmes qui sont abordés. On voit beaucoup, beaucoup le thème de la Emouna, et que grâce à cette Emouna, on va expliquer exactement tout de suite où est-ce qu'on le retrouve, ce thème de la Emouna et de la foi. Mais on voit que David, il exprime à plusieurs reprises qu'il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Et pourquoi est-ce qu'il n'a peur de rien? Parce qu'il a confiance en Dieu. On voit également dans ce Tehillim combien est-ce que David, il demande et il supplie à Hachem d'être proche de lui, de l'écouter, d'avoir la chance de voir sa face, que Dieu ne se cache pas de lui. Et on voit également qu'il a des demandes de « guide-moi, éternel, etc. Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires ». Donc il y a plusieurs sujets qui sont abordés, la tfila, la emouna, l'espoir aussi. Le dernier verset parle d'espoir. L'espoir aussi est beaucoup très important. David nous demande d'espérer. Et donc on commence un petit peu, je ne sais pas si vous le sentez, mais on commence à sentir que ce Tehillim, c'est un Tehillim plein d'espoir, plein de courage, qui nous donne beaucoup, beaucoup, qui nous montre à quel point est-ce que pour David Ameller, sa force, d'ailleurs il le dit, David nous dit dans ce Tehillim, Dieu est ma force, ma'oz chayai. Ma'oz chayai, les mots de ma'oz chayai ont plusieurs explications. C'est la force et c'est également le rempart. Dieu, David ici, il nous décrit qu'en vérité, qu'est-ce qui lui permet de ne pas avoir peur? Parce que c'est vrai que la peur, c'est un sentiment à bannir, mais c'est un sentiment qui est très présent. Et il faut savoir également qu'il y a différentes sortes de peurs. Et également, la peur par rapport au jour du jugement, par rapport à la tchouva, par rapport à qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant le mois des Louls et pendant Yom Kippour, etc., tout ce qui nous attend. Et David, lui, ici, il nous rassure et il nous dit « Mais moi, j'ai pas peur, j'ai peur de rien. J'ai peur d'aucun ennemi. J'ai pas peur du mauvais penchant, j'ai peur de rien. Et pourquoi? Parce que Dieu est ma lumière. » Dieu est sa lumière. L'inverse, le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Il faut savoir que les problèmes, la distance avec Hachem, on sait que par exemple David a combattu avec Goliath. Des personnages comme Goliath qui représentent le mal, ça c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est lorsque on marche dans un sentier où on a l'impression qu'on est seul. La solitude également, c'est l'obscurité. Lorsque David il nous décrit que Et David Hachem au Rivish, Imimi ira Hachem, ma Osraya, Imimi Ephra, de qui je vais avoir peur? De qui est-ce que je vais avoir peur si Hachem il est ma lumière et mon salut? Si je mets toute ma confiance en Dieu, ils peuvent s'approcher de moi, les Méréim, les méchants, si vous voulez, tout seul, ils peuvent essayer de m'agresser, mais j'ai peur de rien, j'ai même pas peur d'une guerre, comme il dit, Imtachane alay machane. Même si on vient me faire la guerre, mais j'ai pas peur. Et déjà, la grande leçon que ce Tehillim vient nous apprendre par rapport au mois d'Elul, c'est combien est-ce qu'on doit reprendre confiance en Hachem. On a perdu confiance en Hachem. On a perdu confiance dans l'amour qu'Hachem il nous porte. On a oublié qu'en vérité, faire tchouva, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem il peut nous faire. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé ce monde pour nous donner du bien, pour nous faire du bien, pour nous permettre de nous coller à lui, pour nous permettre de nous rapprocher de lui, pour nous permettre de recevoir tout ce bien qu'il a mis dans ce monde, tout cet univers, tout ce qui existe en vérité, c'est pour nous donner. Tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour nous faire plaisir. Et c'est vrai que on s'est éloigné, on a fauté. Et Hachem, il nous a offert un cadeau qui, en vérité, la tchouva, on dit qu'elle a été créée avant même que ce monde soit créé. Pour nous dire que c'est le but de ce monde, c'est de nous amener à revenir vers Hachem. D'ailleurs, dans le mois d'Elul, on parlera et on expliquera c'est quoi la tchouva. On essaiera en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une notion tellement vaste et tellement forte et tellement importante qu'on ne fait que essayer de l'analyser. Et donc, avant de découvrir c'est quoi réellement la tchouva, on est obligé de comprendre que pour revenir vers Hachem, Il faut d'abord vivre Hachem. En vérité, ça marche ensemble. Mais, et c'est pour ça donc, que ce Tehilim va nous accompagner pendant toute cette période. Ce Tehilim, il vient nous rappeler que... Qu'est-ce qu'il nous dit, David ? David, il dit à Dieu, tu es toute ma vitalité. C'est quoi toute ma vitalité ? C'est quoi ma osraïaï ? Ça veut dire, je sais que tout vient de toi. Je sais que c'est toi qui me donne la force de tout faire. Et donc, je n'ai pas de quoi avoir peur. On sait que la peur, c'est l'éloignement d'avec Hachem. La peur, c'est aussi le doute. On dit que lorsque les Juifs étaient dans le désert, et lorsqu'ils sont sortis des Juifs, d'Égypte, pardon, et qu'ils ont dit « Ayesh Hachem Bekir Benu Im Ain » est-ce que Dieu est parmi nous ? Ils se sont sentis loin d'Hachem, ils ont eu un doute. Ils se sont dit « Est-ce que Dieu veut réellement de nous ? Est-ce que Dieu nous aime réellement ?» Et bien, après avoir dit cette phrase, on voit qu'Amalek les a agressés. Pourquoi ? Parce que lorsque tu n'as pas confiance qu'Hachem il est avec toi, qu'Hachem il cherche ton bien, qu'Hachem il veut, il est là, Hachem il est là, c'est ce qu'il nous dit David, Hachem c'est ta lumière. N'oublie pas qu'Hachem c'est ta lumière. Alors, en réponse à la peur, on a la Emouna de David. Cette Emouna d'ailleurs, qui donne la force toute l'année, c'est pas qu'au mois d'Eloul, mais en vérité la Emouna de David qui transparaît dans, dans tout le Sefer Tehilim, dans tout le livre de Tehilim en entier, on sent la force de la Emouna et de la foi de David. Et donc les filles, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que David, il vient ici nous livrer un secret. Il vient nous dire, ok, on va faire Tshuva, mais si tu veux faire Tshuva, d'abord, développe un lien avec Hachem, développe un lien de Emouna, un lien de confiance, un lien d'amour, un lien de « j'ai pas peur, t'es là, tu vas m'accompagner » et tu m'accompagnes tout le temps, c'est pas juste dans les moments très très difficiles, c'est même dans le quotidien, c'est même lorsque je cuisine, c'est même lorsque je fais les courses, c'est même lorsque j'ai une hésitation par rapport à une décision à prendre, c'est tout le temps Hachem, il nous dit « je suis là ». D'ailleurs, je vous ai dit dans l'introduction que cette période, c'est une période qu'on appelle les périodes des 7 semaines de consolation, et justement, la haftara que nous allons lire à la synagogue cette semaine, donc après, je vous ai dit qu'après la paracha, on lit une haftara, ce sont donc des psukim donc des Nevi'im et des Ketuvim que nous lisons, et c'est toutes ces haftarot traitent de la consolation, et en vérité dans ces haftarot même on voit combien est-ce qu'Hachem il nous aime, et ça aussi c'est en préparation à Rosh Hashanah, au jour du jugement. D'ailleurs, j'ai envie de vous lire un petit extrait de l'haftara de la semaine pour que vous compreniez que c'est étonnant, mais c'est pas étonnant parce qu'il n'y a pas d'hasard dans le judaïsme. La haftara de la semaine et le psaume 27 sont sur la même longueur d'onde. Les mêmes idées reviennent. C'est Dieu qui nous parle. Là, c'est David qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle et qui nous dit, regardez, c'est comme ça. La haftara, elle est comme ça. Elle dit, une partie de la haftara en tout cas, c'est moi qui vous console. Où es-tu, toi qui as peur d'hommes périssables, des fils d'Adam, qui tout à l'heure seront de l'herbe ? Oubliant l'Éternel qui t'a créé, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Tu trembles sans cesse, tous les jours, devant la colère du tyran qui médite ta perte. Mais où donc est maintenant la colère du tyran ? De nouveau, vous voyez ici, c'est dans Yeshayahu, il nous parle de la peur de l'ennemi. Et tout de suite, c'est quoi la réponse ? Rapidement, le captif verra tomber ses chaînes, il ne mourra pas dans son cachot et le pain ne lui fera pas défaut. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui dompe la mer dans ses flots se soulève, quand ses flots se soulèvent, et qui se nomme l'Éternel Tsevakot. J'ai déposé mes paroles dans ta bouche, et je t'ai abrité à l'ombre de ma main, voulant établir de nouveaux cieux et réédifier la terre, et dire à Tsion, tu es mon peuple. » Est-ce que vous vous rendez compte combien est-ce qu'on a l'impression un petit peu de lire la même chose ici ? David et Yeshayahu, bon Yeshayahu ce sont donc des nouveautés que Dieu dit, et Dieu qu'est-ce qu'il nous dit ? Mais de quoi tu as peur ? De quoi tu n'es pas peur ? N'aie pas peur, je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne, vis avec moi, fais-moi confiance. Regardez comment ces mots, ils sont forts, ils sont magiques. Il dit « Et je t'ai abrité à l'ombre de ma main ». Dans le Tehilim 27 aussi, on voit donc cette notion d'abri, puisqu'on parle de rempart, on parle aussi de soukha, on parle aussi donc de cet abri. Hachem, ça doit être notre abri, notre réconfort. On doit avoir confiance, et c'est ça, la Emouna en vérité, c'est la base de la tshuva. Pour revenir vers Hachem, il faut lui faire confiance que ce qu'il me propose, que la Torah qu'il me propose, que les mitzvot qu'il me demande, c'est bon pour moi, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il veut mon intérêt, et c'est pas simplement que c'est bon pour moi, mais c'est que c'est atteignable, que, vous savez, on dit la tshuva, la Torah, elle est pas, il faut pas croire qu'elle est dans le ciel, qu'elle est inabordable, elle est à notre niveau, elle est pour nous, elle est adaptée à nous, on en a déjà parlé dans les précédentes audios, elle est adaptée à nous, ça veut dire qu'on a parfois l'impression, oh, c'est trop grand pour moi, c'est trop grand pour moi. Eh ben non. Là, David, il te dit, mais fais confiance en Hachem. Et tout ce psaume, il va nous accompagner durant toute la période de la tchouva, toute la période du jour du jugement, de Yom Kippour, tout ça pour nous rappeler à chaque fois combien est-ce qu'on doit se sentir, comme David nous le dit dans un autre psaume, on doit se sentir dans les mains de Dieu, on doit se sentir comme un nourrisson dans les bras de sa mère, comme un nourrisson qui a été sevré. C'est ça le sentiment qu'on doit ressentir. Je me rappelle d'une histoire qui avait été racontée par le Rav Shmulevitz. Il raconte l'histoire d'une maman qui avait dû voyager pour pour une fête, et elle était donc partie en avion. Elle avait voyagé aux États-Unis et elle avait pris avec elle son bébé. Et elle avait donc assisté au mariage. Ensuite, il y avait la période au mariage pour lequel elle avait voyagé. Et puis la période des Shabbat, elle avait voyagé d'une ville à l'autre, en voiture, en bus, en train, etc. Elle avait donc eu un voyage bien, bien rempli. Et à son retour, donc, en Israël, ses amis lui demandent « Comment est-ce que ça s'est passé ? Raconte-nous. » Alors elle raconte « Je suis venue, je suis partie. » Et le Rav Shmulevitz dit « Et si on demandait au bébé comment ça s'était passé son voyage ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Eh bien, il n'aurait qu'une réponse s'il pouvait parler. Il dirait « Eh bien, j'étais dans les bras de maman. Il n'y a rien. Il ne sait pas où est-ce qu'il était, il ne sait pas ce qu'il a traversé, il ne sait pas ce qu'il a vu, il ne sait qu'une chose. J'étais dans les bras de maman, et si je suis dans les bras de maman, alors quoi ? Je suis rassérénée, je suis en sécurité, j'ai peur de rien. Et David nous dit également, donc cette phrase tellement forte, il nous dit « Bezot anibotear ». En cela, j'ai confiance. David, il dit « J'ai confiance ». Vous savez les filles, que pour avoir confiance, il faut parler avec Hachem. David, toute sa vie, parle avec Hachem. Un des moyens de développer la confiance en Dieu, c'est de parler avec Hachem. Et également, de parler des paroles d'Emouna. Et de lui dire, Dieu, j'ai confiance en toi. Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu es présent dans ma vie. Je sais que tu m'accompagnes. Je sais que tu vas m'éclairer. Je sais que tu vas m'aider à trouver les solutions. Parler avec Hachem, c'est ça qui ancre la Emouna. D'ailleurs, David Hamelech, il nous dit dans un autre psaume de Tehilim, il nous dit « Et manti ki adaber ». J'ai eu confiance parce que je parlerai. Parce que j'ai parlé, par le fait de parler, j'arrive à avoir confiance. Donc, on a compris jusqu'à présent qu'il y a beaucoup, beaucoup le sujet de la confiance qui apparaît dans ce psaume. Et qu'en vérité, David, il veut nous dire, vous voulez revenir vers Hachem ? Mais d'abord, apprenez à le connaître, apprenez à le faire rentrer dans votre vie, apprenez à lui faire confiance. C'est la base, avant tout, avant de faire le bilan, parce qu'on sait que la tchouva, c'est également le bilan, avant de faire le bilan, avant de regretter, on va voir également que bien sûr qu'il y a le regret dans la tchouva, mais avant tout, faites-lui confiance qu'il est bon, faites-lui confiance qu'il vous aime, faites-lui confiance qu'il vous donne que ce qu'il y a de mieux sur terre, faites-lui confiance. Les filles, on va continuer après une petite pause à continuer à découvrir quels sont les autres messages de David dans ce psaume, quels sont les messages qui nous donnent le ton en vérité à cette période qui nous attend, cette période donc tellement riche de Elul et de Tishrei. Mais je vous propose d'abord une petite interruption et on reprend tout de suite après. À tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'Halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question RAV, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour les filles, pour la dernière partie, donc notre émission Judaïsme au féminin. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que vous avez un petit peu découvert qu'est-ce que le psaume 27 cachait et que recélait comme merveille. Donc, on a parlé donc, de la place de la Emouna, du Bitachon en Dieu, pendant cette période que David nous dévoile donc, dans ce Tehilim. Et il y a un autre verset qui est très très intéressant et qui contient également un secret pour aborder la Tshuva. Ce verset est le verset suivant. En vérité, c'est un verset qui a été même beaucoup chanté dans des chansons en Israël. C'est, je vous le lis dans les mots aussi en hébreu, je m'excuse parce qu'on ne peut pas échapper à des mots pareils qui sont tellement, tellement forts. « Achat shal timet Hashem, ota avakesh, shifti bevet Hashem, kol yeme chayai, lachazot benoam Hashem, ulvaker be'echalo. » Tout de suite la traduction, ne vous inquiétez pas. « Il est une chose que je demande au Seigneur. » Que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la splendeur de l'Éternel et de fréquenter son sanctuaire. En vérité, on sait que David rêvait de construire le Beth Amikdash, mais Dieu ne lui a pas autorisé. Pourquoi Dieu n'a pas autorisé à David de construire le Beth Amikdash? Parce que David avait dû faire beaucoup de guerres. Et le Beth Amikdash, c'est un symbole de shalom, c'est un endroit de paix. Et donc, Dieu a dit à David, Je ne peux pas admettre que ce soit toi qui le construis alors que tu as du sang sur tes mains. Ce sera donc ton fils Shlomo, et qui lui ne fera pas de guerre, qui aura le mérite de le construire. Maintenant, bien sûr, toutes les guerres que David avait faites, c'était des guerres pour défendre le peuple juif, c'était des guerres permises, c'était des guerres qu'il devait faire. Néanmoins, il n'a pas eu l'autorisation de construire le Beth Amikdash. J'ai lu aussi une explication très jolie autour de ça. On nous dit que puisque David devait faire tellement de guerres, alors il y avait peut-être, dans son inconscient, le désir que grâce au Beth Amikdash, puisqu'on sait que le Beth Amikdash aurait apporté la paix, c'était quelque chose qui allait apporter la paix, alors peut-être qu'il aurait espéré, David, que grâce au Beth Amikdash qu'il construirait, alors ça lui amènerait la paix et qu'il n'aurait plus donc qu'il n'aurait plus eu besoin de guerroyer. Et les sages nous enseignent que si dans l'esprit de David, il y avait eu une petite, mais peut-être ne serait-ce qu'une petite pensée comme ça, peut-être qu'en construisant le Beth Amikdash, j'aurais plus besoin de faire de guerre puisque le Beth Amikdash apporterait le shalom. Et donc, s'il y avait eu comme ça dans l'esprit de David une petite pensée qui n'était pas 100% pour Hachem, 100% l'Hachem Shamaim, alors on ne pouvait pas lui permettre de construire. Dieu ne pouvait pas lui permettre de construire le Beth Amikdash. Parce que pour construire le Beth Amikdash, il fallait que ce soit 100% pour Dieu, sans aucun intérêt personnel, sans aucun intérêt personnel, que ce soit rien que pour Hachem. Néanmoins, David, c'était son rêve. Il rêvait de construire une maison pour Hachem. Il ne pouvait pas supporter l'idée que lui avait une maison et que Dieu n'avait pas de maison. Et donc, son rêve, c'était, comme on l'a dit dans ce passouk, de vivre Hachem, de contempler la grandeur d'Hachem. En vérité, on dit également, qui veut dire dans ce passouk également, d'étudier. David, il voulait étudier. Mais il voulait étudier, il voulait vivre Hachem, il voulait vivre en proximité avec Hachem. Mais il y a une question qui est posée. David, c'était un roi. Un roi et pas Stam, un roi, un grand roi avec beaucoup, beaucoup de responsabilités. Il devait gérer. C'était pas, vous savez, c'était pas simplement un roi, c'était également un roi. C'était le Rav. On venait lui poser des questions d'Alaha. Il devait donc gérer un peuple entier. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Comment est-ce que David, il peut dire à Hachem qu'il n'y a qu'une chose qu'il veut? C'est vivre Dieu, c'est contempler Dieu, c'est étudier, c'est quelque part une forme de, un petit peu de rébellion contre ce qu'il a à faire. Dieu l'a mis en tant que roi, il a des devoirs en tant que roi. Et donc, qu'est-ce qu'il demande ici, David? Qu'est-ce que David, il est en train de demander? Il demande quoi? Autre chose? Autre chose que ce qu'Hachem, il lui a proposé? Autre chose que ce que Dieu a décidé pour lui? Eh ben non. J'ai lu quelque chose de très très beau là-dessus. En fait, ce que David demande que dans tout ce qu'il doit faire, oui, il doit gérer un pays, il doit faire des guerres, il doit protéger le peuple d'Israël des Pélishtim, il doit faire tout ce qu'un roi doit faire. Mais tout ça, il veut le faire avec Hachem. Il veut que Hachem soit présent avec lui à chaque instant, à chaque pas. D'ailleurs, dans le psaume 16, plus au début des Tehillim, on voit que David dit une phrase qui ressemble à cette phrase qu'on est en train d'analyser. Il dit « Shiviti Hachem lenegdi tamid ». Je me suis représenté, je me suis fixé devant moi Dieu tout le temps. De nouveau, la question se pose. Comment est-ce que tu es tout le temps en train de voir Hachem devant toi? Tu es un ennemi devant toi, tu es dans une guerre, tu dois le combattre. Comment c'est possible? Eh bien, l'explication, elle est comme je viens de vous le dire. David, dans tout ce qu'il faisait, il avait Dieu devant lui. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem, il est en train de me demander? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi? Et en vérité, c'est ça, là, tu vois, c'est vivre Hachem. C'est vivre Hachem, vivre la proximité d'Hachem. Savoir que lorsque je fais quelque chose, je dois me demander, qu'est-ce qu'Hachem, il en penserait? Est-ce qu'Hachem, il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il ne serait pas d'accord avec ça? Et demander également à Hachem. David, ici, il demande beaucoup de choses. On a l'impression qu'il dit, j'ai qu'une demande à te faire. Il dit à Dieu, achat shalti, j'ai qu'une demande. Et après, on voit qu'il demande beaucoup de choses. Parce qu'en vérité, oui, il demande beaucoup de choses. Mais toutes ces choses qu'il va demander, c'est qu'une chose. C'est Hachem, je te veux dans ma vie, point. Et on sait que David, il a vécu une vie très, très, très difficile. Il a eu des moments où il était au summum en tant que roi d'Israël. Il a été également berger, il a été poursuivi. Et pour lui, il n'y avait pas de différence. Tout ce qu'il a traversé, c'était « Dieu est devant moi ». D'ailleurs, vous savez, ce mot qui est employé, ce mot de « shiviti » qui est employé, donc « je me fixe Dieu, je me représente Dieu devant moi », la Chassidoute nous dit que dans ce mot « shiviti », donc qui est « je me fixe Dieu devant moi », il y a également la racine du mot « shivion » qui veut dire « égal ». Que tout est égal pour moi. Que je sois un berger, que je sois un roi, que je sois poursuivi, peu importe ce que je suis. Dieu, il est avec moi, tout est égal. Et en vérité, c'est une grande, grande leçon pour nous. Parce que c'est vrai qu'on est tellement trimballé, vous savez, une femme, Baruch HaShem, on est tout. On est une psychologue, on est une infirmière, on est une assistante sociale, on est une cuisinière, bien sûr, on est une repasseuse, on est conseillère pédagogique, conseillère matrimoniale, tout ce que vous voulez, on est tout en même temps. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup de choses dans le courant d'une journée. Et pas toujours les choses ne vont comme on voudrait, d'accord? Ça ne se passe pas toujours exactement comme on voudrait. Et qu'est-ce que David y vient nous apprendre? Mais si tu vis avec Hachem, alors les choses, elles vont être égales. Elles vont être égales et c'est ça qui va te permettre de t'amener à la tchouva. C'est ça, la pré-tchouva en fait. Je veux dire la pré-tchouva, mais en vérité, je veux dire aussi, c'est ça qui accompagne tout le processus de la tchouva. C'est rechercher à faire plus entrer Hachem dans ma vie. C'est ça que ce Tehillim, il vient nous dire. Avant d'aborder la tchouva, vis Hachem dans ta vie. Et tu vas voir, lorsque tu vas vivre Hachem, tu vas sentir son amour. Parce que c'est réciproque. On nous dit qu'amaim apanim lapanim ken leva adam la adam. Que de la même manière que l'eau reflète le visage de l'homme, alors pareil, le Dieu nous reflète notre comportement. Lorsque tu vas montrer à Hachem combien est-ce que tu veux de lui, combien est-ce que tu cherches à avoir confiance en lui, combien est-ce que tu cherches à l'aimer, parce que oui, c'est ça qu'on nous demande. On nous dit que le but de toutes les mitzvot, c'est d'arriver à aimer Hachem. C'est comme ça qu'on se colle en Hachem. On se colle en Hachem en l'aimant. Et lorsqu'on aime quelqu'un, alors vous savez, on n'a qu'une chose. On a envie de faire sa volonté. On a envie de faire ce qu'il nous demande. Lorsqu'on se rend compte également, et là aussi, David, on dit qu'un des moyens qui lui a permis de se renforcer en Emouna, bien sûr, c'est le fait qu'il parlait tout le temps avec Hachem, mais c'est aussi également le fait qu'il avait conscience de toutes les belles choses qu'Hachem lui mettait sur son chemin, toutes les victoires. À chaque fois qu'il avait une victoire, David, ça le renforçait dans sa Emouna. Pareil pour nous, à chaque fois que quelque chose de bien se passe, qu'on réussit quelque chose, qu'on a une bracha dans quelque chose qu'on fait, si on utilise ces événements positifs qui nous sont arrivés dans notre vie pour développer, pour renforcer en vérité la confiance qu'on a en Hachem, Alors, c'est ça ce que David nous dit. Utilise, renforce-toi. Et David, qu'est-ce qu'il fait aussi dans ce psaume? Il promet quoi? Il promet d'offrir des sacrifices de remerciement. Ça aussi, non seulement j'utilise le passé, mais je promets sur le futur. J'utilise le passé, ça veut dire toutes les victoires que David a eues, ça le renforce dans sa émouna que bien sûr que ça va bien se passer. Bien sûr que tout va bien se passer. Hachem m'a déjà prouvé qu'il est avec moi. Il continue de me le prouver. Donc j'utilise mes réussites passées pour construire mon avenir. Et pas seulement pour construire, mais je promets également. David, dans ce psaume, il promet de remercier Hachem. Et ça aussi, ça fait partie de la tchouva. De dire, Hachem, je suis sûre que tu vas me guider. Je suis tellement sûre que je te promets que je te remercierai. Je te promets que je ferai un super beau Sukkot. Pourquoi? Parce que je sais que tu vas m'inscrire dans le livre de la vie à Rosh Hashanah. Je sais que tu vas me pardonner. Vous savez, tous les jours, dans la tchila, dans la Amida, on demande à Hachem de nous pardonner. Slach. On lui dit, Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous. Le Baal HaTanya, il nous dit, une personne... Si elle y croit réellement que lorsqu'elle demande à Dieu de lui pardonner, elle sera pardonnée, alors lorsqu'elle dit ces mots, elle est pardonnée. Tout court, elle demande à Dieu et elle est pardonnée. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, parlez-moi. Et si vous me parlez, et si vous, ce que vous dites, c'est vrai, c'est honnête, alors vous serez exaucé. Lorsqu'on demande du fond du cœur, Hachem, pardonne-moi. Hachem, je regrette. On en reparlera de c'est quoi regretter, c'est quoi faire tchouva, on en reparlera. Mais rien que de savoir que, jusqu'à présent, Hachem, il nous a donné encore un jour de vie, encore une occasion, encore une chance de pouvoir nous rapprocher de lui, de pouvoir mieux faire. Alors, ok, hier, j'ai mal fait, mais j'ai une chance, je suis encore là. Je me suis encore réveillée ce matin, Dieu merci. Donc, j'ai encore... Dieu, ça veut dire que Dieu, il me fait confiance. Moi, je ne vais pas lui faire confiance. Dieu, il me fait confiance et moi, je ne vais pas lui faire confiance. Et si Dieu, il me fait confiance, moi, je ne vais pas me faire confiance à moi. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas beau. Et David, il continue. Et qu'est-ce qu'il nous dit également? Il nous dit « espère ». Mais espère et continue d'espérer. Ce dernier verset, il est extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'il dit, on dit que de ce verset, on apprend l'importance de prier et encore prier pour quelque chose. Il dit comme ça « espère en l'Éternel, courage, que ton cœur soit ferme, oui, espère en l'Éternel ». À deux reprises, il nous dit « espère ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La Gemara, elle nous dit que de ce passouk, on apprend combien est-ce qu'une personne, elle doit prier, même si elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Ok, tu as demandé quelque chose et tu ne l'as pas obtenu. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, David? Continue d'espérer. Rien que par le fait que tu espères, tu vas t'attirer la chose sur toi à travers le fait que tu demandes encore et encore à Hachem. Pourquoi? Parce que lorsque je demande, lorsque je prie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais confiance qu'Hachem va me donner la chose. Ça veut dire que je crois en Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit David dans un autre Tehilim? Aboté arba Hachem, chesed yisovovenu. Celui qui fait confiance à Hachem, il sera entouré de chesed et de bonté. Ça veut dire quoi? Si tu places ta confiance en Hachem, tu t'attires les bonnes choses dans ta vie. Tu t'attires la Yeshua, tu t'attires ce que tu as besoin. Et vous savez que le mot espoir en hébreu se dit tikva. C'est le mot qui est employé dans ce dernier verset. Kavel Hachem, espère en Hachem. Ce mot tikva, il a une racine. La racine du mot tikva, c'est kav. Kouf, vav. Kav en hébreu, c'est un trait, c'est une ligne. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il nous dit, lorsque tu espères, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu espères en lui, tu espères qu'il va t'envoyer ce que tu as besoin, ce qui est bon pour toi. Alors, c'est comme un trait qui te relie à lui, c'est comme une ligne qui te relie directement au trône céleste. C'est ça qui va te permettre de recevoir toute l'abondance qu'Hachem veut te donner à travers le fait que tu te fasses un travail psychologique d'espérer et de vouloir. Ça aussi, c'est l'essence même du mois d'Eloul. On a beaucoup de travail en Eloul, on a beaucoup de travail en Tishri, mais on espère. Bah oui, on espère. On espère qu'Hachem va être là partout. Et même si on n'a pas le temps, vous savez quoi? Même si on n'a pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait faire, parce que en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste regarder le ciel et dire, comme David Ameler, Bezot anibotear. Hachem, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi que tu vas m'aider. J'ai confiance en toi. Et ne pas se perdre. David, il dit, j'ai une demande alors qu'il en a beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Je suis igvi, je suis régulier dans ce que je veux. Ce que je veux, Dieu, c'est toi. C'est toi que je veux. Je veux te vivre au quotidien, c'est ça que je veux. D'ailleurs, on raconte également sur Hanor. Hanor, c'est un personnage, un grand tzaddik de la Torah. On dit que c'est un homme qui était cordonnier. Un homme qui était tellement, tellement tzaddik, on dit qu'il ne devait même pas mériter de mourir. On dit qu'il était cordonnier et que lorsqu'il faisait ses chaussures, il avait des kavanot, des pensées très, très élevées, très, très spirituelles. Et là-dessus, le Rav Israël Salanter, il pose la question et il dit « Comment est-ce que c'est possible qu'un cordonnier ait des pensées tellement élevées de spiritualité? Ça va l'entraîner à commettre du vol. Parce que si tu penses à des choses spirituelles pendant que tu es en train de réparer tes chaussures, tu vas mal les réparer. Et si tu es employé par quelqu'un, ça va être un vol de temps. Ton esprit, il est pris dans des sujets très, très élevés, d'études, de Torah, de Gomara, tout ce que vous voulez. Et alors que tu es en train de devoir réparer ta chaussure, c'est un peu du vol par rapport à ton patron. Comment est-ce que tu peux comprendre une chose pareille? Eh bien, la réponse, elle est la même que pour David Ameller. De la même manière qu'on a dit sur David que ce qu'il voulait, c'était vivre Hachem dans tout ce qu'il avait à faire dans son quotidien. Pareil, Hanor, lorsque il cousait ses chaussures, qu'est-ce qu'il pensait? Ce n'était pas des pensées dans les cieux, des trucs très très élevés. C'était quoi? Dieu, aide-moi à ce que la chaussure que je suis en train de réparer, que je suis en train de fabriquer, elle soit bien, que la personne qui la porte, ce soit agréable pour elle dans son pied, que mon travail soit un bon travail. C'est ça en vérité ce qu'on nous demande. C'est ça vivre avec Hachem. Vivre avec Hachem, ce n'est pas vivre dans les livres. Ce n'est pas être toute la journée, tout le mois d'Eloul, dans des sphères célestes, en train de se dire « je veux faire tchouva ». Vivre avec Hachem, c'est rentrer Hachem dans son quotidien, rentrer Hachem dans les choses que je fais tous les jours, regretter pour tout ce que je fais et que dans lesquelles je n'ai pas vu Hachem, dans lesquelles je n'ai pas senti Hachem, dans lesquelles j'ai senti que j'étais seule, que j'étais seule. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que la peur qui apparaît dans ce Tehillim, en vérité, David dit que je n'ai pas peur. La peur, c'est la solitude. Avoir Hachem, c'est ne jamais être seul. Je ne suis jamais seule parce qu'Hachem est tout le temps avec moi dans tout ce que je dois faire, dans toutes les décisions que je dois prendre, et même dans ma tchouva, et surtout dans ma tchouva. Donc, voilà, il y a, en vérité, je vous ai ramené ici beaucoup, beaucoup de notions, mais l'idée principale que je voulais dire, c'est qu'on va aborder la tchouva. Bien sûr qu'on va en parler. Mais avant tout, regardez le ciel. Regardez le ciel et rappelez-vous combien est-ce qu'Hachem, il vous aime. Combien est-ce qu'Hachem, il vous a protégé depuis que vous êtes né et jusqu'à aujourd'hui. Promettez-lui que vous avez confiance en lui, que vous allez avoir encore plus confiance en lui. Et surtout, demandez-lui, c'est ce qu'il nous apprend aussi David Ameller, il faut le lui demander à Hachem. Il faut demander à Hachem de nous aider à l'amener vers lui, de nous aider à l'aimer, de nous aider à accomplir ses commandements dans la joie, de nous aider à avoir confiance que ce qu'il me demande, c'est bon pour moi, c'est faisable, c'est pas trop dur pour moi. Voilà. En vérité, c'est énorme ce qu'on a dit aujourd'hui. J'espère que vous avez un petit peu suivi et que Béhémeth, vous allez lire, d'abord vous allez lire les Télim à partir de maintenant, avec plus d'enthousiasme. Parce que vous savez que le Orchot Tzadikim nous dit que lorsqu'une personne elle fait une mitzvah dans la joie, son salaire est 1000 fois plus grand. Donc si de toutes les manières on lit Tehillim, alors peut-être qu'on rajoute un petit peu de joie, ça va transformer. Et peut-être que ça, c'est ça qui va nous amener la Géoula. Donc déjà, lire Tehillim avec plus de joie, avec plus de conviction, avec plus de foi dans ce que je suis en train de faire. Et lorsque vous lirez ce psaume 27 pendant cette période de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Shmini Atzeret, vous comprendrez un petit peu quel est le message de David, quelle est la grandeur de ce personnage qui nous délivre des grands, grands, grands secrets pour servir Hachem à travers des mots tellement merveilleux. On termine cette émission de Judaïsme au féminin. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez écrire à radio@torahbox.com. Et je vous souhaite une très, très belle journée.